Les drones peuvent-ils améliorer la santé des populations isolées? Ben, c'est ce que croient certains médecins qui travaillent en Afrique, notamment à Madagascar, au Malawi, également au Sénégal, et qui utilisent ces appareils pour acheminer des médicaments ou des prélèvements qu'ils font chez certaines populations qui sont isolées des grands centres. Et on va s'entretenir avec le docteur Simon Grandjean-Lapierre, qui est microbiologiste et qui est aussi chercheur affilié à l'Institut Pasteur de Madagascar. Il est actuellement là-bas, à Madagascar, alors il pourrait y avoir un petit délai dans la conversation, mais quand même, c'est un projet assez audacieux qui utilise la technologie des airs, donc, pour améliorer la santé des gens. Bonjour, docteur Grandjean-Lapierre.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, expliquez-moi un peu d'où vient ce projet-là d'utiliser ces drones, cette technologie, donc, pour aider des populations isolées.
Bien, les drones, c'est un outil qui est jeune, mais qui se développe rapidement, qui est maintenant utilisé dans virtuellement tous les secteurs d'activité. Et puis, en médecine ou en santé publique, du moins dans le support aux soins médicaux en pays à faible revenu, ça fait environ depuis 2014 là, que différents projets émergent ici en Afrique subsaharienne, mais aussi dans d'autres pays. Et ce qu'on fait à Madagascar, c'est de l'utilisation de drones dans ce qu'on appelle bidirectionnel. Donc, à l'opposé d'utilisation simplement en livraison ou en parachutage de dispositifs de santé, vaccins, médicaments, peu importe, ou en surveillance, où on fait simplement filmer des régions où on doit intervenir. L'utilisation de drones bidirectionnels, comme elle se fait au Sénégal et au Malawi, ça représente en quoi? Ça représente aller chercher des échantillons, des spécimens, oui, pour les ramener vers des infrastructures de laboratoire qui sont centralisées, généralement difficilement accessibles pour les populations. Et en sens inverse, conséquemment du diagnostic qui peut être posé, réacheminer vers les communautés isolées des médicaments, toutes sortes d'applications qui permettent de superviser la thérapie, d'apporter un support aux patients, aux communautés, sans que ces derniers aient à se déplacer parfois plusieurs jours là, pour atteindre les hôpitaux.
Bon. Mais j'ai vu une vidéo qui parle justement de ce projet hier. Là, on ne parle pas des drones ordinaires, là, de drones comme on peut avoir à la maison, par exemple, pour, je ne sais pas, moi, prendre de la vidéo, des trucs. C'est des drones qui fonctionnent sur une beaucoup plus longue distance que les drones domestiques et qui aussi ne sont même pas pilotés par une personne au sol, de ce que je comprends, là.
Tout à fait. Il y a toute une diversité là. C'est un écosystème assez effervescent, la technologie des drones. Le drone auquel on pense le plus souvent, c'est le drone qu'on voit chez nous à Montréal, dans le parc La Fontaine, qui est piloté par quelqu'un qui veut faire de la vidéo. C'est pas du tout ça les drones qui sont utilisés dans la plupart des cas en soins de santé. C'est en effet des drones qui peuvent parcourir des distances allant, dans les cas là actuels, jusqu'à 100 km, qui peuvent transporter du matériel allant jusqu'à 2 à 6 kilos et qui sont 100% électriques, qui sont en effet autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont un système logiciel qui planifie leur point de départ, leur point d'arrivée et la trajectoire entre les deux, aller-retour, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de garder là, une ligne de vue avec le drone ni de le piloter là, de façon manuelle, c'est tout automatisé. Et puis, ça permet évidemment là, d'atteindre des populations beaucoup plus loin et puis de les utiliser dans beaucoup plus d'applications que les petits drones photos là, qu'on voit le plus souvent.
Mais quel est le taux de fiabilité? Parce qu'il y a de longues distances, vous le perdez de vue complètement au bout de quelques secondes. Il n'y a personne qui pilote le drone et il se rend à destination, il atterrit exactement au bon endroit de ce qu'on voit en tout cas dans la vidéo. Est-ce qu'il y a, il y a des incidents où vous perdez des drones ou si le taux de fiabilité de ces livraisons, si je puis dire, est assez élevé?
On n'en a pas perdu. C'est sûr qu'au départ, il y a eu certains vol-tests. Et puis, certains vol-tests, on a dû ajuster nos logiciels puis faire une étape là, de pilotage là, et puis d'essai. Mais il n'y a eu aucune perte de drone, non?
Mais tout ça, évidemment, c'est fait dans l'optique d'aider ces populations-là, de faciliter l'acheminement et des échantillons et aussi des médicaments par la suite. Dans quelle mesure vous pensez que cette technologie permet de sauver des vies ou d'aider les populations qui sont touchées par ces maladies?
Bien, ce que nous, on fait à Madagascar, ce qui est un peu différent des cas de Malawi et Sénégal, nous, notre programme est vraiment concentré sur la tuberculose.
Oui.
Ce programme de recherche-là, c'est un partenariat de l'Institut Pasteur de Madagascar, du gouvernement malgache et puis du centre de recherche du CHUM. Et la tuberculose, on le rappelle, c'est une bactérie. C'est la bactérie qui tue le plus d'êtres humains de façon annuelle.
Ah
Et
oui, hein?
sur les 10 millions de cas qui sont estimés survenir à chaque année par l'Organisation mondiale de la santé, on pense qu'on en perd ou qu'on n'arrive pas à diagnostiquer entre 3 et 4 millions. Donc, il y a 4 millions de gens qui ont la tuberculose qui ne sont pas reconnus. Et puis, évidemment, les communautés les plus rurales, les plus isolées, où l'accès aux soins de santé est limité, mais ça se trouve être des berceaux, des réservoirs où ces cas-là sont non diagnostiqués, peuvent transmettre la maladie puis entretenir l'épidémie. Donc, évidemment qu'en facilitant l'accès, en donnant accès au diagnostic puis en permettant le suivi, le traitement des patients diagnostiqués, ben on a l'impression qu'on fait quelque chose de bien. C'est d'ailleurs ce que les données démontrent, parce que sur un an et demi d'implantation ici à Madagascar, le programme, qui n'est pas juste simplement un programme utilisant des drones, mais aussi d'autres aspects technologiques là,
Oui.
qui sont dans le même programme d'intervention, a mené, de ce qu'on répertorie, à une augmentation d'environ 50% de l'accès au diagnostic. Puis, chez les patients diagnostiqués, une augmentation de 50% de complétion de traitement. Compléter un traitement de tuberculose, c'est complexe, c'est beaucoup d'antibiotiques, c'est pendant plusieurs mois, donc on a beaucoup de pertes au suivi, mais de construire ce lien entre les infrastructures de santé et les régions isolées permet de garder les patients enrôlés là, dans le traitement et puis de les amener jusqu'à un état où ils sont guéris, ne
Oui.
transmettent plus.
Alors, est-ce que devant ces résultats intéressants, vous allez, comment dire, augmenter la présence de ces drones-là dans vos régions de recherche?
Bien, c'est en fait un des objectifs de l'étude qu'on vient de publier dans le British Medical Journal avec Malawi, Sénégal et Madagascar. C'est un peu de construire sur cette expérience-là et puis d'être capable de cibler quels avaient été les plus grands points forts, quelles étaient
Oui.
les faiblesses des différents projets, puis quels sont les plus grands obstacles là, qu'on doit surmonter pour pouvoir passer d'un projet preuve de concept, entre guillemets, et puis d'aller à l'échelle, puis d'implanter ça de façon plus large.
Oui.
C'est sûr que nous, on remarque une plus-value. La première question qui survient, c'est toujours celle du coût. Et puis, on se ment pas, là, soutenir le financement dans des économies qui sont déjà fragiles, ben c'est
Ouais.
l'objectif, c'est l'obstacle majeur. Puis, on espère que comme à part du coût, il y a toutes sortes d'initiatives qui se mettent en branle là en Afrique subsaharienne autour des drones. On espère aussi que le coût va pouvoir être absorbé de façon plus concertée et moins isolée par des bailleurs comme le
Ouais.
Fonds mondial, comme les gouvernements, etc. Et évidemment, il y a des études de coût-efficacité là, qui vont découler des différents projets cet avenir.
Bien, félicitations, c'est un très beau projet, puis ça semble très bien fonctionner en plus, alors c'est tout en votre honneur. Et puis, ben merci beaucoup d'avoir été avec nous. Fait quel temps à Madagascar en ce moment-là?
En ce moment, c'est l'hiver à Madagascar. Ce que ça veut dire, l'hiver, c'est qu'il fait plein soleil,
oui.
Il n'y a pas plu depuis 3 mois, et qu'en milieu de journée, on atteint la marque des 20 degrés Celsius.
Ah mon Dieu, ben c'est un hiver épouvantable. J'espère que vous avez amené vos skis pour aller faire du ski de fond, ou je sais pas trop.
Oui, exactement. Ski de fond et puis plongée sous-marine.
Oui, exactement, dans la même journée. Merci beaucoup, Dr. Grandjean Lapierre, d'avoir été avec nous.
Merci, M. Lacroix. Au revoir.
Au revoir. Simon Grandjean-Lapierre est chercheur affilié à l'Institut Pasteur de Madagascar. Ils utilisent une technologie de drone. Ça n'a rien à voir avec les drones que vous avez à la maison, je vous le dis tout de suite, là, mais qui fonctionne de façon autonome complètement sur plus d'une centaine de kilomètres pour acheminer des médicaments. Assez spectaculaire.